on. And are we supposed to call this a home run?
It is
gone to left center. Vladimir Guerrero Jr. with his first batting practice home run.
There you go.
Of his big league
history's
career.
History's been made.
Vous avez bien compris, c'est pas une séquence de match, c'est la pratique au bâton d'avant-match vendredi, un peu surréaliste. On décrivait chaque coup frappé par Vladimir Junior. Bonsoir Philippe, comment vas-tu?
Salut Mario, en pleine forme. Oui, c'est un petit peu surréaliste d'entendre ça.
Ah oui, puis il y en a canonné une coupe assez loin et il a frappé un coup sûr dans chaque match en fin de semaine. Les Jays sont invaincus. Moi, ça m'a donné le goût de regarder les Jays jouer, mais avoue que l'image de la semaine, c'est de le voir revêtir l'uniforme. En tout cas, c'était le fun sur le terrain. Là, j'aime la game, là, la partie, mais de le voir arriver avec le blouson de son père, Vladimir, et le blouson des Expos, disons que ça a séduit beaucoup de Québécois et d'amateurs de baseball. Là.
Ça a été absolument extraordinaire de voir ça, de voir Vladimir Guerrero Jr. qui se présente pour son premier match dans les ligues majeures. Il arrive au Rogers Center. Il pourrait avoir une veste des Blue Jays ou simplement un complet. Mais non, il arrive avec le chandail des Expos porté par son père. Et quand on pense, c'est quand même à Toronto. Là.
Oh, ouais, c'est pas rien. Là.
S'il en est une dans le sport de Montréal. Mais j'ai trouvé ça absolument extraordinaire de sa part. Je trouve que ça prend un certain culot là, quand tu arrives à Toronto et tu te présentes avec le chandail des Expos. Mais bravo aux gens de Toronto. Je n'ai entendu aucune critique. Tout le monde a compris. Tout le monde a trouvé
vraiment
ça formidable de voir qu'il célébrait ainsi l'héritage de son père. Puis c'est tellement le fun de voir que les Expos ne sont pas oubliés. Puis que, bon, ça veut dire, tu sais, on a été un peu froissés. Froissés, un petit peu quand même, même si on comprenait. Quand Vladimir Guerrero Senior a été élu au temple de la renommée, hein, on aurait tous aimé qu'il choisisse la casquette des Expos. Mais finalement, pour toutes sortes de bonnes raisons, il a pris celle des Angels de Californie. Puis là, tu te poses la question, est-ce qu'il a déjà oublié? Est-ce qu'il a oublié que c'est ici qu'il a commencé? Mm-hmm. Puis je trouve que là, il est venu à quelque part par l'entremise de son fils. Puis bon, c'est sûr que le père devait être très à l'aise avec le geste. Je peux pas croire que fils n'a pas parlé à papa avant en disant « Hey, je vais porter ton chandail pour arriver au Rogers Center ». J'ai l'impression qu'à quelque part, ça a reconnecté Vladimir Guerrero, père, avec son héritage montréalais. Et moi, ça, j'ai trouvé qu'il y avait une force symbolique dans tout ça qui était vraiment assez spectaculaire. Et là, il arrive et il a complètement changé l'ambiance, je pense, chez les Blue Jays de Toronto. C'est une équipe qui n'est pas extraordinaire, on s'entend là-dessus, qui n'est peut-être pas si mauvaise non plus, mais on ne s'attend pas à des feux d'artifice des Blue Jays cette année, puis ça risque d'être du baseball un peu sans conséquences. Mais là, lui arrive et change la donne, parce que là, ils sont devenus excitants, ils sont devenus un peu sexy, les Blue Jays. Tu veux voir, hey, qu'est-ce qu'il va faire, Vladimir Guerrero Jr., comment ça va se passer? Et seulement sa présence physique avec ses cheveux, cette masse d'hommes, quand il arrive au MLB, c'est un spectacle en soi. Et là, de voir qu'il a donné, moi, il n'y a pas eu des statistiques offensives à tout casser là, dans les trois matchs. C'est pas lui qui a donné la victoire aux Blue Jays. Mais je pense, Mario, qu'il a changé la dynamique dans l'équipe. Je pense que tous les joueurs se sont aperçus, hey, c'est le fun, il se passe quelque chose autour de notre équipe là, de positif. J'ai l'impression que ça a mis beaucoup d'animation au sein du groupe.
Et même, bon, t'as sûrement entendu les entrevues qu'accordait Ross Atkins, le directeur général, qui a été impopulaire un peu en arrivant parce qu'il succédait à un gars très populaire en Alex Antopoulos, et a pris des décisions très impopulaires aussi en échangeant des joueurs, puis en misant, puis en disant, bon, ben c'est un reset, puis on va rebâtir pour le futur. C'est pas de même qu'il l'a exprimé, il n'a pas utilisé le mot reset, excuse-moi, ça c'est si je suis contaminé par Montréal un peu. mais il reste que c'est comme ça qu'il a mis la table. Et au niveau, bon, il y a beaucoup de critiques quant à l'utilisation de la convention collective qui fait que les Blue Jays ont attendu à cette date-là pour le rappeler et en même temps se préservant une année de contrat de plus, si tu veux, avant de le négocier ou avant qu'ils puissent négocier avec toutes les équipes. Je comprends la dimension de ça. Mais au plan stratégique, l'équipe est à 3 matchs de 500 avant le week-end. Vladimir brûle le 3A. Je trouve que, en tout cas, comme tonique baseball, et ce que ça a amené, c'était comme un deuxième jour d'ouverture locale, la foule en moins.
Oui, tout à fait. Ben, ils ont, je lisais dans les journaux de Toronto qu'il y a eu, semble-t-il, là, selon les informations de certains journalistes, il y a eu 14 000 billets achetés à la porte le soir du match vendredi, ce qui est beaucoup. Là. Mais on sait, là, depuis le début de la saison, ils ont des problèmes d'assistance pour une équipe qui a attiré largement au-delà de 3 millions de personnes en 2015-2016. C'est assez.
C'était pas la foule en fin de semaine. Là.
En fin de semaine, il y a eu des assistances de 28 000. Dimanche, c'est sûr que ça a été décevant. Il n'y avait pas 19 000 personnes dimanche, 18 557. Alors, c'est plate parce que les gens, ils ont eu un match extraordinaire. Et c'est là que je te dis que ce gars-là change un peu la dynamique parce que c'est ce que le baseball peut de nous offrir de plus beau. Alors, dimanche, c'est 1-1 après 9 manches. Les Athletics arrivent au bâton au début de la 11e. Ils marquent 3 points. T'es sûr que c'est fini. 4-1 au milieu de la 11e. Oui. Et là, les Blue Jays reviennent avec 4 points en fin de 11e manche et remportent le match 5-4. C'était carrément spectaculaire. Alors, et je pense qu'il apporte cette confiance-là, mais c'est toute une organisation qui reste un peu à reconnecter avec les gens de Toronto. Ils ont eu tellement de belles périodes avec Alex Antopoulos, qui a fait des échanges magiques à la date limite des transactions quand il était allé chercher David Price. Avec Josh Donaldson et puis José Bautista. Et puis là, ils se retrouvent avec une équipe qui est un peu en mal d'identité. Ils sont allés pêcher des gars à gauche, à droite. Il y en a quelques-uns qui vont bien, Freddy Galvis et tout. Mais tu peux pas dire, hey, c'est qui ça, les Blue Jays de Toronto? Mais là, l'arrivée de Guerrero change ça complètement. Et j'ai l'impression que ça peut redonner de l'allant à cette concession-là.
Ce qui m'a étonné, puis je le savais, mais je ne l'avais pas vu raconter comme ça. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue qu'Alex Antopoulos accordait, parce que c'était quasiment une émission spéciale vendredi soir là, ouais, à Sportsnet, que l'arrivée de Vladimir Guerrero. Et Alex Antopoulos, qui est devenu directeur général des Braves d'Atlanta, a sur son cellulaire encore une séquence où il est allé en République dominicaine observer des jeunes joueurs. Et il filme un jeune joueur qui est au bâton. Et il ne sait pas qui il est à ce moment-là. Et Vladimir Junior a 15 ans. Et c'est étonnant, compte tenu que c'est le fils de l'autre. Tu penses que tout le monde l'avait sous le radar. Mais non, il s'en va en République dominicaine. C'est à peine s'il jouait dans une équipe. Il prenait surtout des élans, là, plus qu'autre chose. Puis il a joué avec des amis. Puis à un moment donné, juste le son du bâton, Alex Antopoulos de demander à des gens autour, mais c'est qui ce garçon-là? Mmh. Et là, il entend le nom magique. Ben, c'est le fils de Vladimir Guerrero. frisson.
Quelle belle histoire.
Ben oui, puis là, il garde l'image, puis là, je pense qu'il s'excite un petit peu à ce moment-là de dire « Wow, est-ce qu'il y a ben du monde qui sont au courant que le fils de Vladimir Guerrero est capable de canonner des balles comme ça? » Il avait 15 ans, et le reste, c'est de l'histoire, mais ils ont dépensé une belle somme quand même quand il a été éligible.
3,9 millions de dollars américains pour le mettre sous contrat. C'est le bonus de signature qu'il a obtenu, mais aujourd'hui, c'est dans les normes du baseball majeur. Il y en a qui vont chercher beaucoup plus que ça, mais c'est rien à côté de ce qu'il obtiendra éventuellement. Puis là, une des questions fondamentales qui se pose, c'est que dans le baseball, les équipes attendaient que les joueurs approchent de l'autonomie pour leur donner le gros lot avec plusieurs années de contrat, mais on voit ça de plus en plus maintenant, des jeunes joueurs qui ont un an d'expérience, qui en sont leur première année, mais qui sont extrêmement prometteurs, et les équipes les mettent sous contrat pour 8 ans de façon à aller chercher 2 ans d'autonomie. Là,
parce que c'est très précisant. Faut pas que tu tombes, mais bonne stratégie quand tu mets sur le bon cheval.
Oui, puis c'est pour un jeune joueur aussi. Peut-être que s'il devient une super, super vedette, il sera peut-être un peu moins payé là, dans les années 7 et 8, mais d'un autre côté, ça assure son avenir s'il est victime d'une blessure ou s'il ne se développe pas comme le joueur qu'on espérait, parce que ça arrive aussi des joueurs qu'on attend très, très gros, puis après 2 ans, on s'aperçoit que, regarde, il sera toujours simplement un réserviste dans le baseball majeur au mieux, ou s'en soit un joueur de 3A. Je pense pas que c'est le cas de Guerrero, là, mais sûrement pas, mais quand même, ça protège le joueur. Alors là, ça va être intéressant de voir si une organisation assez conservatrice comme les Blue Jays de Toronto va décider d'opter pour cette voie-là ou non. Est-ce qu'ils vont dire, écoute, lui, c'est une si grosse vedette, on veut s'assurer qu'il soit ici longtemps, puis on va lui donner le contrat qui va faire en sorte qu'il va jouer pour les Blue Jays pendant des années et des années et des années. Alors, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que dans le moment, ils ne l'ont pas fait avec 2 jeunes lanceurs très, très prometteurs, bien, plus que prometteurs, qui sont déjà très bons, Marcus Stroman et Aaron Sanchez. Alors, ils vont plutôt avec des contrats à court terme. Et là, ben c'est sûr que ça, quand les gars vont approcher de l'autonomie, ils vont s'en souvenir. Ils vont peut-être dire, ben là, regarde, vous aviez 3 ans là, pour nous offrir des contrats, puis vous ne l'avez pas fait.
On a connu ça, nous autres, dans le temps.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis moi, si j'étais les Blue Jays, il me semble que je sauterais sur l'occasion, d'autant plus que c'est une tendance qui est en train de se développer dans le baseball majeur. Alors, tu sais, souvent, je pense une organisation qui est plus conservatrice, ils ne veulent pas arriver puis ouvrir un nouveau chemin qui pourrait faire en sorte que d'autres organisations regarderaient ça en disant, hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, eux autres? Tu sais, qu'est-ce qu'ils font au juste? Ils sont en train de semer la confusion dans tout ça. Mais là, vu que c'est déjà fait, je ne serais pas étonné qu'il le fasse. Puis ça me rappelle un peu, si on peut faire un rapprochement, c'est un peu du même niveau que les offres hostiles au hockey, là, à des agents libres avec compensation. Ça existe, tu peux le faire, mais personne n'ose le faire. Personne n'ose être le premier, mais je me dis tout le temps, une fois qu'une équipe va le faire, et peu importe le résultat, est-ce que ça va entraîner d'autres gestes comme ceux-là? Est-ce qu'il faudrait que quelqu'un entrouvre la porte avant qu'on la défonce complètement puis qu'on aille dans cette direction-là? Je ne sais pas ce qui va arriver. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que le milieu du hockey va rester conservateur, même si tu as des joueurs. Tu sais, quand tu as un gars comme Mitch Marner là, qui va devenir joueur autonome avec restriction le 1er juillet, s'il n'est pas signé, s'il n'a pas renouvelé son
spontanément,
contrat avec
les Maple Leafs. On en a parlé à quelques reprises dans la dernière semaine de l'histoire des offres hostiles. C'est comme Marc Bergevin disait dans l'entrevue qu'il m'accordait, c'est devenu un peu pas la saveur du mois, mais c'est devenu un sujet tout à coup abordé souvent. Puis, sais-tu quoi, spontanément, est-ce qu'il y a un joueur qui vaut vraiment ça? Tu sais, dans un sport d'équipe, regarde tous les meilleurs compteurs de la saison régulière là, dans la Ligue nationale de hockey. Sont-ils en vacances ou ils jouent encore? Je fais juste me questionner. Là, t'es-tu prêt à sacrifier 4 choix de repêchage, un paquet de millions, puis de tout miser sur un joueur, déséquilibrer peut-être un petit peu ce qui passe dans ton vestiaire? Tu sais, au-delà de dire que c'est un milieu conservateur, puis tout ça, tu sais, il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles, puis je sais pas, parce que regarde les équipes qui sont encore en série cette année, je suis pas sûr que s'ils se disent, en tout cas, c'est une réflexion spontanée comme ça que je
t'offre dans la conversation. Oui, tout à fait. Très beau débat, puis il y a des arguments pour et contre des deux côtés. Mais prends une équipe comme le Canadien, disons là, qui offrait le gros lot à Mitch Marner, puis il faut qu'il donne 4 choix de première ronde. Mm-hmm. Et ces choix de première ronde-là, là, ça va être quel rang au repêchage? Ils ont déjà une pas pire équipe. Peut-être qu'avec lui, il réussirait à se qualifier pour les séries éliminatoires.
Troisième tiers, possiblement.
Ben voilà. Puis là, tu entends beaucoup de directeurs généraux. C'est drôle comment ils n'ont pas tout le temps la même lecture de la première ronde. Quand ils parlent d'en donner 4 comme ça, c'est « Ah, faut qu'on garde nos choix de première ronde, c'est tellement important. Ouais. » Puis quand ils choisissent 15e ou 16e, ils disent « Ah, vous savez, après le 5e, là, souvent ils vont dire « Après les 10 premiers, la fin de la première ronde puis le début de la deuxième. » Tu sais, c'est un peu, c'est pas une loterie, mais tu sais, ça se peut que ça fonctionne, puis ça se peut que ça fonctionne pas. L'écart entre les joueurs et la capacité de prévoir ce qu'ils vont véritablement donner quand ils seront professionnels, elle est plus, tu sais, c'est plus mince, c'est plus difficile. Alors, moi, je trouve que, tu sais, c'est sûr que si tu donnes 4 choix, puis que ces 4 choix-là sont le premier une année, le deuxième l'autre année, puis le quatrième, c'est une chose. Mais si tu donnes 4 choix qui sont une année le 24e, une année le 27e, une année le 22e, puis une année le 23e...
C'est pas la fin du monde.
C'est pas tout à fait
mais
la même.
Mais il y a des bons joueurs qui ont été repêchés là, pareil.
Bien sûr.
On pourrait en faire l'énumération, on va s'éviter ça, mais c'est une discussion, effectivement, je serais curieux de voir, là, d'assister à une conversation au cœur d'un meeting, d'un état-major du personnel hockey, voir quel genre d'arguments qui peuvent être présentés.
Qu'ils l'ont, au moins, la conversation. J'espère qu'ils l'ont, parce que je trouve que c'est quand même une arme qui est là dans la convention collective, puis qui n'est pas utilisée. Puis tu vas voir, un jour, quelqu'un va l'utiliser, quelqu'un va gagner avec ça, puis là, il y en a d'autres qui vont les imiter. Mais ça prend tout le temps quelqu'un pour... T'sais, oser. Puis si ça marche pas, c'est sûr que là, l'effet de rétroaction est terrible. Mais t'sais, pense aux Blue Jackets de Columbus. Ce qu'ils ont fait à la date limite des transactions, tu as 2 joueurs vedettes, tu sais, qui vont joueurs autonomes à la fin de l'année, Panarin puis Bobrovsky. Puis déjà, les deux ont dit qu'ils veulent aller tester le marché avec leur agent. Puis là, tu dis, non seulement je les échange pas, je les garde, puis je vais chercher 2 autres joueurs de location de bon niveau en Matt Duchene et Ryan Zingle. C'est audacieux. Quel autre directeur général, quelle autre organisation ferait ça? S'ils gagnent, là, ça va donner le goût à d'autres équipes d'agir comme ça. C'est ça que je dis souvent, tu sais, t'as un phénomène.
Mais je pense que la situation avec laquelle ils étaient pris à la base a provoqué, tu sais, parce que là, les autres, ils étaient pris déjà avec 2 joueurs sur le point de peut-être quitter l'organisation. Pas sûr, tu sais, que si tout le monde va planifier ça comme
Non, ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que...
rendu au moment de prendre une décision, ils ont été audacieux. Ça, c'est sûr. Tu peux pas leur enlever ça.
Ils ont analysé, là, ils sont assis, là, probablement, là, dans les semaines qui ont précédé la date limite des transactions. Puis là, ils ont dû en avoir des discussions. Puis ça devait être serré. Il y en a qui devaient dire, écoute, est-ce qu'on les échange, les deux? On va faire le plein de choix au repêchage pour Panarin, pour Bobrovsky, peut-être un choix de première ronde, peut-être plus si il y a des clauses, si le gars signe avec l'équipe à laquelle il a été échangé, il y a un choix de plus et tout. Tu sais, c'était une option attrayante quand t'es même pas sûr de faire les séries. Puis à la place de ça, ils ont dit non. All in.
Oui, monsieur. Puis ça va peut-être leur sourire. C'est 1-1 dans la série. Philippe, merci
ça
beaucoup.
Prend du cran.
Bonne soirée. À très bientôt. On revient tout de suite avec André Tourigny.